L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Aujourd'hui, on retrouve, comme c'est le cas une fois par trimestre, l'association CLCV, Consommation, Logement, Cadre de Vie, qui se penche sur nos vacances. Certaines et certains d'entre vous vont louer des maisons, des gîtes, des mobilhomes, peut-être passer par Airbnb ou d'autres plateformes de location entre particuliers. Pour la plupart, tout va bien se passer, vous allez en profiter. Pour d'autres, en revanche, ça peut tourner au vinaigre. Et oui, ça arrive, la maison ne correspond pas à la promesse, la vue sur mer est encombrée, le tout équipé est défaillant, voire pire, l'appartement n'est en fait pas disponible. Aujourd'hui, la juriste de la CLCV du Finistère, Valérie Boulch, est exceptionnellement à distance et en différé, mais ça ne l'empêchera pas de vous expliquer comment parer aux déconvenus, comment au moins obtenir réparation en cas de problème. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Donc, en règle générale, quels sont déjà les bons réflexes à avoir à partir du moment où on cherche sa location? Alors, c'est vrai que c'est un peu tard pour chercher une location, mais quand même, quels sont les repères? Alors, notamment les sites internet, les labels, qu'est-ce qui est fiable?
Alors, ce qu'on va voir au départ déjà, c'est va falloir déjà cadrer un petit peu ce qu'on veut. Le secteur, la destination, quels sont les critères de location, l'emplacement proche de la plage, proche du camping, proche de, je sais pas moi, le nombre de chambres qu'il y a dans le logement. Donc, une fois qu'on a déterminé ça, effectivement, on va aller se renseigner sur la région, hein, bien sûr. Ça peut être consulter peut-être le site de l'office de tourisme, puisque là, il va y avoir quand même de nombreuses annonces qui vont être proposées. Et après, on peut aller aussi effectivement sur des sites qui sont quand même assez connus, ça peut être Abritel, ça peut être Gîtes de France, ça peut être Vacances Bleues, il y a plein de, ou Interhome, il y en a plein en fait qui existent. Alors, faire quand même attention, hein, ce sont des plateformes de mise en relation, donc ils permettent d'avoir pour une personne d'avoir de nombreuses annonces, mais c'est vrai qu'il faut regarder quand même un petit peu dans les conditions générales, parce que ces plateformes ne garantissent pas toujours en fait la véracité des choses, ils font pas forcément des vérifications, ce qui est le cas aussi de Airbnb en fait, hein, qui dans ces conditions générales précise bien qu'ils ne garantissent pas forcément l'existence, la qualité ou la sécurité des annonces. Maintenant, quand vous passez quand même par ces intermédiaires, ça veut dire qu'il y a quand même un moyen, un contact que vous allez pouvoir avoir pour pouvoir interpeller quand il y a un problème. Ce qu'il faudra faire attention aussi peut-être, c'est d'éviter un peu les annonces qui sont trop parfaites. C'est-à-dire une superbe villa à des prix, défiant toute concurrence. On peut avoir certains doutes. Qu'est-ce qu'on peut faire attention autrement? Faut effectivement, quand on va avoir le descriptif de la location, c'est de pouvoir peut-être avoir les informations les plus précises possibles, avoir un descriptif détaillé, de manière à ce qu'on puisse peut-être vérifier l'exactitude. Alors, qu'est-ce que ça va être ? S'il faut qu'on ait le contact du propriétaire, on a l'adresse du logement. Peut-être qu'on peut regarder, faire un petit tour sur Google Maps ou Google Earth et d'essayer de voir si la maison existe, parce que malheureusement, il est arrivé que des gens louent des locations et se retrouvent à ne rien trouver sur place quand ils arrivent. Il ne faut pas hésiter à demander peut-être au propriétaire des photos, de demander des renseignements bien précis, d'avoir des écrits de sa part qui permettront après, si vous gardez ces documents-là, de pouvoir dire quand on arrive sur place s'il y a un souci, mais attendez, vous m'aviez dit qu'il y avait ça, vous m'avez menti. Moi, je veux un rabais, voilà. C'est plein de petits éléments comme ça, en fait, qui vont permettre de sécuriser un petit peu la transaction.
Après, oui, si c'est par exemple les gîtes, style Gîtes de France, c'est peut-être plus sûr là.
Alors les Gîtes de France, ça va être plus sécurisé parce qu'effectivement, pour rentrer sur ces sites-là, il faut répondre à certains critères et donc là, il y aura des vérifications qui vont être faites. Mais du style peut-être, je ne sais pas si Abritel, je n'ai pas regardé les conditions générales, mais c'est ainsi connu, mais en tout cas Airbnb, se désengage de ça. Par contre, comme c'est un intermédiaire, c'est-à-dire que vous allez payer sur la plateforme Airbnb, qui ne verse pas l'argent directement, enfin en tout cas immédiatement, donc à la personne qui loue. Comment dire, si vous, dans le, quand vous arrivez sur place et qu'on constate que ça ne correspond pas à la réalité, moi je prends l'exemple d'une personne que j'ai eue dernièrement qui est arrivée sur place, la machine elle avait tourné, il y avait des bols sales dans l'évier, enfin la salle de bain était sale, voilà. Elle a pu en fait prendre contact avec l'hôte, c'est comme ça qu'on appelle sur Airbnb, par la plateforme, et elle a pu signaler à la plateforme ce problème-là. Et donc si l'argent ne sera pas reversé immédiatement, il ne sera peut-être pas reversé en totalité à celui qui loue, si effectivement il y a des problèmes. Donc ça donne quand même peut-être une certaine sécurité.
Alors si le loueur annule la réservation, la location au dernier moment, est-ce qu'on a des recours? Est-ce qu'on peut s'en sortir?
Oui, on a des recours. Maintenant, les vacances seront quand même gâchées, puisqu'effectivement, c'est un peu trop tard, on ne va pas pouvoir se retourner. Maintenant, un loueur qui vous a promis une location, vous avez un contrat de location avec, donc, vous avez payé un acompte ou des arts. Si ce sont, effectivement, on va faire la différence entre les acomptes et les arts, ça c'est toujours important de connaître cette différence-là. Donc, un acompte, si c'est une somme qui est versée d'avance et qui valide la location, c'est-à-dire que le contrat devient définitif. Donc, on ne peut plus revenir en arrière, que ça soit pour celui qui loue le logement ou celui qui va, alors le locataire ou pour le bailleur, ça va être plus simple comme ça. Par contre, donc si le locataire décide de ne plus venir, il va perdre son acompte et il pourrait même être tenu, si le bailleur en décide comme ça, d'être tenu de payer la totalité de la location. Par contre, là, pour répondre à la question, si c'est le bailleur qui décide à la dernière minute d'arrêter la location, il devra non seulement effectivement rembourser l'acompte, mais il pourra être tenu à des dommages et intérêts pour des vacances gagées, une perte d'argent. Par exemple, vous avez loué une voiture sur place, vous avez loué autre chose, vous ne pouvez pas venir et vous ne pouvez pas utiliser votre location. Ça peut être aussi un préjudice pour lequel on pourra obtenir une somme supplémentaire en plus de l'acompte. Par contre, si ce sont des arts, si c'est une somme qui est effectivement pareille, hein, c'est une somme qui est versée en avance, mais les arts, en fait, c'est une somme que l'on peut perdre. C'est-à-dire que si le locataire décide finalement de ne pas venir, il perdra ses arts, mais le propriétaire ne pourra pas réclamer la totalité de la location et ne pourra pas demander de dommages et intérêts. Et à l'inverse, quand il s'agit des arts, le propriétaire décide d'interrompre, en fait, hein, de ne pas donner la location, donc au locataire, dans ce cas-là, lui, il va être obligé de rembourser le double des arts. Voilà. Voilà à peu près la différence entre acompte et art.
Autre scénario cauchemar, on arrive sur place, le logement existe bel et bien, mais il est déjà occupé. Qu'est-ce qu'on fait ?
Eh ben alors là, c'est vrai que c'est le cauchemar effectivement de toute personne qui part en vacances. Donc d'abord, on va regarder un petit peu par rapport au contrat. Donc si on a bien toutes les informations qui prouvent bien qu'effectivement, on a bien loué ce bien-là pour telle date. Si on a ces éléments-là et que quelqu'un y habite, c'est vrai qu'on va pouvoir demander au bailleur des explications. D'où l'intérêt d'être sûr de son adresse et d'avoir bien ses coordonnées. D'où l'intérêt aussi du contrat avec toutes ces informations. Et ce qu'il va falloir faire, alors c'est pas l'idéal effectivement quand on est sur les vacances, il faudrait passer par un huissier. En fait, il faudrait faire venir un huissier pour faire un constat, pour constater qu'alors qu'on a loué cet appartement, cette villa à telle date, elle est occupée par quelqu'un d'autre, de manière à apporter des preuves et pouvoir demander à la fois le remboursement au bailleur et des dommages et intérêts pour par exemple les déplacements que vous avez faits alors que vous ne pouvez pas prendre possession de la location. Alors, c'est pas toujours évident hein, de faire appel à un huissier sur les vacances, mais c'est vrai que là, pour se garantir les preuves, c'est peut-être la seule solution.
Alors, si le logement est disponible, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais il ne correspond pas à ce qui était promis dans l'annonce. Par exemple, la mer est beaucoup plus loin que prévu, la piscine n'est pas remplie, des incidents comme ça.
Alors, si on arrive sur place, effectivement, on constate que par rapport au descriptif de la location, ce qui avait été annoncé par le bailleur n'est pas présent. D'où l'intérêt, on revient bien à la base, du contrat qui est nécessaire avec un descriptif très précis. Et ne pas hésiter quand on a des besoins particuliers ou des envies particulières. Des besoins, ça peut être effectivement, moi, peut-être j'ai un enfant handicapé, j'ai besoin d'un accès plus facile. Moi, j'ai envie d'être proche de la mer, donc merci de me préciser à quelle distance est la mer. Donc d'où l'intérêt de demander des précisions si cela n'est pas déjà noté dans le contrat, ce qui fait que quand vous arrivez et que la réalité est autre, vous allez pouvoir négocier exiger du propriétaire en fait un rabais sur la location pour tenir compte du fait que les éléments sur lesquels les éléments qui vous ont amené en fait à contracter, à prendre cette location-là ne sont pas présents. Donc ce sont des fausses informations. Ce qu'il est possible de faire aussi si vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose de votre bailleur, d'abord c'est déjà le signaler tout de suite, faire un courrier, faire un écrit. Et il est tout à fait possible aussi, mais là ça sera plus pour d'autres personnes pour éviter qu'elles ne se fassent avoir. Il y a une plateforme qui s'appelle Signal Conso, hein, c'est la répression des fraudes. Et vous avez en allant sur cette plateforme-là un petit onglet location saisonnière. Vous allez pouvoir signaler en fait les problèmes que vous avez eus. Ce qui va pouvoir, soit s'il y a plusieurs personnes qui se plaignent de la même chose, déclencher une enquête de la DDPP, donc la Direction départementale de protection des populations, ou au moins faire qu'il y ait une intervention en fait peut-être de la DDPP auprès de ce bailleur-là.
Et quand on arrive dans la location saisonnière, tout a l'air normal. Est-ce qu'il y a quand même des bons réflexes à avoir et lesquels ?
Alors, le bon réflexe à avoir, ça serait l'état des lieux. Alors, en matière de location saisonnière, par rapport à une location meublée ou à une location vide, les textes ne l'obligent pas. Maintenant, c'est fortement recommandé de faire un état des lieux entrant et un état des lieux sortant. Alors, c'est sûr que quand on arrive sur un lieu de vacances, c'est pas la première chose qu'on a envie de faire, c'est passer une demi-heure, une heure à faire ça. Mais c'est vrai que pour éviter tout litige, parce que si vous ne faites pas d'état des lieux d'entrée et qu'en fait vous découvrez le propriétaire lui à la sortie, il dit attendez, il y a un problème là, c'est cassé et autres, alors que ça existait quand vous êtes rentré, si vous n'avez pas fait cet état des lieux, ça pourra vous être reproché et on pourra vous demander une somme d'argent à ce titre-là. En partant d'ailleurs là-dessus, il faut peut-être qu'on évoque aussi la possibilité d'avoir un dépôt de garantie, hein, savoir qu'un propriétaire, comme dans une location vide ou une location meublée classique à l'année, peut demander un dépôt de garantie. Là, par contre, la loi qui légifère en matière de vide et de meublé classique ne donne pas de montant déterminé au dépôt de garantie. Maintenant, je pense que vous pouvez accepter, mais ne pas dépasser au moins le coût de la location. Voilà. Et cette somme-là aussi, ce qui est bien de préciser dans le contrat, c'est de préciser, parce que la loi ne le dit pas, de préciser en fait somme qui sera rendue après l'état des lieux, après la remise des clés, ou alors après la semaine qui suit la remise des clés. Voilà. De mettre des précisions sur le délai avec lequel le dépôt de garantie doit vous être restitué. Sachant que je précise toujours quand même qu'un propriétaire, alors ils le font moi en location saisonnière, mais un propriétaire à qui vous remettez un dépôt de garantie est en droit de, un chèque la plupart du temps, est en droit de l'encaisser. C'est pas forcément fait en matière de location saisonnière parce que ce sont des courtes durées, mais c'est tout à fait possible. À charge pour le propriétaire d'être en mesure, quand il est nécessaire de vous le rendre, de vous le restituer.
Et sinon, à défaut d'état des lieux possible, est-ce que prendre des photos, ça peut être pertinent ?
Alors, c'est pertinent. Plus vous aurez de modalités de preuve, mieux ce sera. Maintenant, après, si ça doit aller plus loin, c'est-à-dire si ça va devant un juge, c'est le juge qui décidera de la valeur de preuve des éléments qu'on va lui soumettre. Donc effectivement, ça peut être des photos. Alors, il vaudrait mieux qu'elles soient effectivement possibilité de dater et peut-être géolocaliser. C'est tout à fait possible, a priori, avec les téléphones portables actuels. Vous avez la possibilité aussi, s'il y a des personnes sur place, de faire des attestations aux personnes qui peuvent éventuellement constater, comme vous, le problème. Alors là, il faudrait mieux faire des attestations, en fait, des attestations judiciaires, c'est-à-dire qu'en fait, la personne va accepter de dire que ses propos pourront être portés devant la justice et va devoir fournir une photocopie recto verso de sa carte d'identité. Donc, c'est des démarches qui ne sont pas forcément toujours évidentes, mais effectivement, tous les éléments de preuve. Ce qui est important aussi, peut-être pas quand vous êtes sur place, mais quand vous êtes aussi au stade de la réservation, c'est de faire des captures d'écran. Des fois, quand vous êtes sur un site, parce que les annonces, elles changent, de garder bien les captures d'écran de l'annonce à laquelle vous avez répondu pour voir tous les éléments en fait qui ont été énoncés. Ça vous permettra avec ça, et comparé à la réalité, de pouvoir prouver qu'effectivement, il y a eu des fausses informations qui vous ont été données.
Est-ce qu'il y a des problèmes, on l'a un peu évoqué déjà, mais peut-être que ça vaut le coup de revenir dessus, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers liés à tout ce qui est plateforme d'échange, de location pardon, entre particuliers, comme Airbnb, mais il y en a d'autres ?
C'est vrai que dans le cadre des permanences, en tout cas qu'on assure sur le département ou que j'assure moi, j'ai eu que très peu de cas de remontée par rapport à ça, si ce n'est effectivement Airbnb, par rapport à des exemples comme ça, où il va falloir... mais là c'est un peu différent encore Airbnb parce que vous allez direct, la plupart du temps c'est chez l'habitant en fait, hein, c'est-à-dire qu'il loue, il met à disposition son logement principal, donc des fois effectivement vous pouvez avoir des découvertes qui sont pas idéales, hein, comme j'expliquais l'autre jour, tout à l'heure plutôt, ce qui est arrivé l'autre jour, c'est-à-dire la machine à laver qui tourne, la salle de bain qui est sale, ou des choses encore non rangées dans le logement qui donnent l'impression qu'il y a une autre personne qui est là. Ce genre de choses, effectivement, ça peut arriver. Donc là, il faut effectivement réagir le plus vite possible pour obtenir soit effectivement l'annulation de la location, mais il faut trouver quelque chose à côté, soit obtenir un rabais. Donc plus vite vous réagissez quand ça arrive, mieux c'est. Maintenant, sur les plateformes, les Gîtes de France, on l'a dit, je pense plus sécurisés parce que les logements en fait sont classés, donc ils demandent de répondre à certains critères. Il y a une charte en fait à laquelle ils doivent répondre, donc là il y a moins de problèmes. Ce qu'il est possible de regarder en fait sur ces plateformes, et ce qui peut-être aider, en fait il y a souvent des chats ou des forums qui permettent en fait de voir l'avis de précédents locataires. Donc ça vaut peut-être le coup en fait de prendre le temps de regarder ça quand vous avez vu une location pour voir ce que disent en fait les précédents locataires, et là de vous dire bah voilà, là c'est quand même plutôt positif, là c'est plutôt négatif. Alors c'est jamais sûr à 100% parce qu'effectivement il peut avoir de faux avis, mais ça donne déjà une idée sur l'état du logement ou la qualité du logement que vous allez prendre.
Et si en cours de séjour, cette fois, on a un équipement comme un lave-linge, justement, qui tombe en panne, quelles sont les obligations, même de l'éclairage, quelles sont les obligations du loueur ?
Ah ben, le loueur doit louer un logement qui est en état de fonctionner avec les équipements qui le composent en état de fonctionner. Donc, d'où l'intérêt bien d'avoir bien les coordonnées précises du propriétaire, ça doit être adresse mail ou contact téléphonique, pour pouvoir le contacter sur le temps de la location et lui demander d'intervenir. Donc c'est pour ça qu'il est très important, à la base, il faut se dire qu'en contrat location saisonnière, la base c'est un contrat, c'est-à-dire que sur le contrat, ça va être les coordonnées du bailleur, du locataire, l'adresse du logement, le prix de la location, tous les détails et un état en fait descriptif du logement. Avec toutes ces informations-là, normalement, ça vous permet de mieux gérer la location et de pouvoir contacter le propriétaire. Donc à vérifier, je pense, avant d'arriver sur place, s'il n'y a que des échanges par mail, peut-être de tenter de contacter le propriétaire pour vérifier le numéro de téléphone et voir si ça fonctionne, pour voir justement, parce qu'on se retrouve des fois effectivement à avoir des fausses adresses mail, des faux numéros de téléphone. Donc prendre peut-être la précaution de vérifier si ces numéros-là, si le numéro correspond bien au propriétaire et si quand vous appelez, c'est bien le propriétaire du logement et qu'il est au courant de la location. C'est des petits détails comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens, des propriétaires qui se sont retrouvés, qui ont vu leur logement mis
en
par
fait,
quelqu'un d'autre.
Voilà, les annonces peuvent être un petit peu piratées et finalement, vous pensez avoir loué à la bonne personne, le logement il existe vraiment, vous avez pu voir ça, pu avoir des avis positifs en plus sur ce logement-là, sauf que le numéro de téléphone ou l'adresse mail en fait ne sont pas les bons. Donc, faut voir aussi comment le paiement aussi. Faire attention si on vous demande. Je parle de location en France, bien sûr, mais si on demande, c'est des paiements à l'étranger. Faut sécuriser les paiements. Il va falloir être un petit peu, jouer le petit détective et essayer de voir si effectivement, vérifier l'adresse mail, vérifier le téléphone, essayer de visualiser si la maison existe vraiment avec Google Maps, Google Earth. Ou même des fois, rentrer simplement l'adresse dans le moteur de recherche et vous allez voir si vous pouvez mettre arnaque à côté au cas où. Et hop, vous essayez de... Et s'il y a quelque chose qui apparaît, vous pourrez avoir des doutes. Certains aussi vont même très loin et se disent voilà, moi j'ai loué ça à telle période. Ils demandent à un de leurs copains de pouvoir appeler, de réserver sur la même période. Si la personne arrive à réserver la même maison, la même villa sur la même période, à la même date, c'est qu'il y a un souci quelque part. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais faut vouloir le faire.
En effet. En revanche, si c'est nous-mêmes qui, en tant que locataires, causons un dommage dans le logement loué, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ?
Toute personne qui cause un dommage à autrui est responsable, en fait, et doit réparer. Donc, le principe, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. Donc, ce qui, effectivement, est important avant de partir, parce que le propriétaire peut, lui, souscrire une assurance pour son logement, ça ne dégage pas effectivement le locataire de sa propre responsabilité, notamment en matière de responsabilité civile, s'il cause un dommage, c'est-à-dire il casse quelque chose, ou même s'il blesse quelqu'un, ou s'il se blesse lui-même. Donc ça, c'est la responsabilité civile. Donc on a tous une assurance habitation. Donc il est conseillé, avant de partir donc en voyage, de se renseigner auprès de son assureur, son assurance habitation, si on a une assurance villégiature, et s'il est possible, le temps de la location, de transférer cette assurance sur donc cette location. Sinon, il est tout à fait possible de souscrire une assurance spécifique auprès de son assureur pour la semaine ou le mois de location. Voilà, exactement. Mais se renseigner en fait par rapport à ça. Mais oui, c'est très important parce qu'il faut se couvrir. Ça peut arriver.
On n'a pas évoqué les cas particuliers de tout ce qui est comme on dit, hôtellerie plein air, camping. Est-ce qu'il y a des choses particulières auxquelles penser dans ces cas-là ?
Alors, on n'est pas vraiment dans le même type de location. Effectivement, là, c'est plutôt des contrats de prestation. C'est de la location, hein, mais c'est vrai que là, on va pouvoir avoir il y aura sûrement des conditions générales. Donc, bien de prendre connaissance des conditions générales de fonctionnement, notamment tout ce qui est camping, mais mobil-home et autres. Donc, là, on peut avoir ces informations. Là aussi, on peut avoir des avis, de campeurs, par exemple, qui peuvent dire il est temps d'étoiles, mais ça ne les vaut pas parce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, il y a quand même plus de facilité de se renseigner par rapport à ce type de location. Maintenant, ça reste le contrat, effectivement, de part et d'autre, des engagements de part et d'autre. Donc, les coordonnées, l'implantation, le prix, c'est pareil. On va rester sur les mêmes choses. L'hôtel, c'est encore autre chose. Là, c'est un contrat de prestation. C'est pareil, des conditions générales. C'est vrai qu'on a moins souvent... les choses qu'on va avoir pour les hôtels, c'est plus ce que j'ai pu avoir, en tout cas, moi, comme question... C'est plutôt la réservation, on n'a pas eu preuve de la réservation. Qu'est-ce qu'on a pu avoir, des vols dans les hôtels ou des choses comme ça? C'est plutôt ces questions-là que j'ai eues, mais les réservations dans des hôtels, logiquement, il n'y a pas les mêmes soucis. Hein. Et vous avez aussi un interlocuteur et vous pouvez très bien, effectivement, si ça ne correspond pas à ce que vous étiez en droit d'attendre par rapport à la catégorie 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, ça répond à des critères. Il y a moyen d'intervenir et d'agir plus facilement auprès d'un hôtelier que auprès d'un propriétaire lambda.
Eh bien, merci beaucoup. De toute façon, pour tout renseignement, il y a toujours les permanences de la CLCV, l'Association Consommation, Logement et Cadre de Vie. On va se souhaiter de bonnes vacances, du coup, Valérie.
Ah, exact. Et surtout en prenant le temps d'avoir bien choisi la location de vacances. Par contre, c'est vrai qu'on est un peu tard maintenant pour le faire, parce que là, on peut toujours le faire. Il y a toujours des locations possibles. Mais c'est vrai qu'il faut commencer en hiver pour pouvoir réserver en été. Vous prenez le temps comme ça de bien regarder les annonces, de prendre le temps de contacter les propriétaires, de poser toutes les questions nécessaires. Et après, vous êtes à peu près sûr d'avoir une location garantie.
Eh bien, on y pensera pour l'hiver. Merci. Et en attendant, je vous rappelle que les permanences de l'association Consommation, Logement et Cadre de Ville, il y en a un peu partout dans le Finistère, il y en a notamment à Châtelain, pour les plus proches de nous. C'était le dernier rendez-vous de la saison avec l'association CLCV. Vous pouvez bien sûr réécouter toutes les émissions sur le site internet de la radio.